Un reportage pour Figaro Pravda.
Décidément, quelque chose ne tournait pas rond dans la capitale de cette galaxie. Les habitants d'Alphaville ne mouraient pas tous, et tous étaient frappés.
Vous menacez la sécurité d'Alphaville. Vous ne dites pas la vérité.
Mettez-vous là. Je répondrai quand on vous parlera.
Je n'ai rien fait.
Vous dissimulez certaines choses. Le présent est effrayant parce qu'il est irréversible. Vous avez l'air d'avoir peur. Soyez assurés que mes décisions auront toujours en vue le bien final. Il est donc logique de vous condamner à mort.
J'admets que je pourrais avoir des raisons de mentir, mais non, je n'ai pas peur. Je refuse de devenir ce que vous appelez normal. Allez vous faire foutre avec votre logique.
Voilà, il est 19h passé de 4-3 minutes à la pendule la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info, comme tous les jeudis, comme toujours la semaine, 19h-20h. Et là, c'est l'équipe de jeudi avec...
Laurent
et Delphine. Voilà, donc plusieurs parties comme d'habitude dans ce Canu Info. Une partie internationale, une partie nationale. Et dans la partie nationale, il y aura le sujet du jour. Et on a concentré, enfin Delphine, a concentré le sujet du jour sur quelqu'un d'emblématique. Un des mecs qu'on peut le plus facilement détester, je pense, parce qu'il s'est attaqué à tout le monde et à des choses que lui seul conteste. Il s'agit de Claude Allègre.
Et oui, et on parlera beaucoup de l'environnement, puisque toi aussi tu reviendras sur le salon Prime Vert. Donc un Canu Info très vert cette semaine.
Voilà, on va commencer par l'actualité internationale et puis le petit sujet sur le tribunal Russell sur la Palestine. Alors le tribunal Russell sur la Palestine, c'est un truc un peu particulier, c'est une sorte de tribunal populaire, pas dans le sens soviétique, hein, mais un tribunal citoyen, on va dire, pour utiliser un terme moins connoté, donc qui a été monté, ça sort d'un avis de la Cour internationale de justice du 9 juillet 2004, donc de créer cette initiative citoyenne pour poser des questions sur ce que fait Israël en Palestine, ou en Cisjordanie, enfin dans cette terre-là, et surtout questionner la responsabilité européenne et internationale, puisque il ne faut pas oublier qu'Israël tout seul ne peut rien faire finalement sans l'aide et l'appui et le soutien des États-Unis, mais de l'Europe, enfin, etc. Donc le tribunal s'est ouvert en début de semaine pour 3 jours et nous avons donc, alors il y a plein de questions qui sont posées, alors plein de gens célèbres sont des sortes de jurés populaires. Il y a Gisèle Halimi, ancienne ambassadeur de l'UNESCO qu'on connaît bien, classée à l'extrême gauche, enfin voilà, il y a pas mal de gens. Il y a un prix Nobel de la paix qui est un prix Nobel de la paix irlandais, hein, de 1976, monsieur McGuire. Il y a pas mal de gens, un avocat, des gens plutôt du milieu de gauche et des pacifistes, des activistes, des résistants, des gens qui luttent pour les droits de l'homme, globalement. Alors, il y avait plein de questions qui étaient posées à ce tribunal sur les violations du droit international commises par Israël, sur la complicité de l'Europe. Je vais vous lire juste quelques bouts de réponses qui ont été données par ce jury sur quelques questions. Alors, par exemple, sur les violations du droit international, le jury rappelle que ils ont pris note du rapport des experts et ils ont entendu des témoins et ils ont donc conclu qu'effectivement, Israël, en maintenant une forme de domination et de soumission sur les Palestiniens qui les empêche de déterminer librement leur statut politique, Israël viole le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Donc ça viole la déclaration sur l'octroi de l'indépendance au pays et aux peuples coloniaux, qui est une déclaration internationale du 14 décembre 1960, qu'Israël est censé respecter. De même, en occupant les territoires palestiniens depuis 67, en refusant de les quitter, Israël viole les résolutions du Conseil de sécurité qui demandent son retrait des territoires occupés. Alors il y a résolution du 22 novembre 67, résolution du 22 octobre 73. Par la poursuite d'une politique de discrimination systématique contre les Palestiniens présents en territoire israélien ou dans les territoires occupés, Israël commet des actes qui se caractérisent par un apartheid. Ces actes sont les suivants. La fermeture des frontières de la bande de Gaza, la restriction de la liberté de circulation des citoyens gazaouis, la prévention du retour des réfugiés palestiniens à leur domicile ou à leur terre d'origine, l'interdiction sur la libre utilisation par les Palestiniens de certaines ressources naturelles telles que l'eau présente sur leur terre. Donc ça viole aussi la résolution des résolutions. Alors, étant donné le caractère discriminatoire de ces mesures, on peut les comparer à l'apartheid, même si elles n'émanent pas, le tribunal nous dit, de la même politique que celle mise en place par le régime d'Afrique du Sud avant 1994. Mais le tribunal signale quand même beaucoup de similitudes. Ensuite, autre avis du tribunal Russell sur la Palestine. Par l'annexion de Jérusalem en juillet 80 et le maintien de l'annexion, Israël viole l'interdiction de l'acquisition de territoire par la force, comme l'a indiqué le Conseil de sécurité le 20 août 1980. En construisant un mur en Cisjordanie sur les territoires palestiniens qu'il occupe, Israël refuse l'accès des Palestiniens à leurs propres terres, viole leurs droits de propriété et limite gravement la liberté de circulation de la population palestinienne, violant ainsi l'article 12 du pacte international aux droits civils et politiques auquel Israël est censé adhérer, pacte signé le 3 octobre 1991. On rappelle aussi l'illégalité de la construction du mur qui a été confirmée par la Cour internationale de justice le 9 juillet 2004, ensuite approuvée par l'Assemblée générale. Alors, il y en a des pages et des pages comme ça. Hein, qui, en gros, ça condamne tout ce que peut faire l'assassinat politique. Alors, il y a un petit mot sur les assassinats ciblés. Ça viole l'article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui demande à ce que l'assassinat est interdit, grosso modo. Hein, l'assassinat d'État. Donc là, Israël respecte pas ça naturellement. D'ailleurs, on l'a vu il y a pas longtemps avec l'affaire de Dubaï. Par le maintien du blocus de la bande de Gaza, ça viole la quatrième convention de Genève du 12 août 49 qui interdit les châtiments collectifs. Alors il y en a plein comme ça. Et ce qui est après plus intéressant, c'est sur l'Union européenne notamment, qui est censée avoir des règles concernant notamment les peuples, au droit des peuples à l'autodétermination. Donc l'Union européenne, en collaborant, en soutenant, en aidant, en privilégiant les relations avec Israël, finalement collabore avec l'attitude israélienne. Et donc l'Union européenne ne respecte pas non plus les textes qu'elle a signés. Voilà, il y a plein de choses. Je vous laisse aller voir sur Internet si vous voulez avoir plus de détails sur le tribunal Russell en Palestine qui a lieu donc en Espagne. Alors il y a des choses en direct ou des choses filmées qui sont en espagnol. Et il y a des traductions qui arrivent au fur et à mesure. Toujours sur Israël-Palestine, un petit mot d'un prof de Harvard qui ça fait très très peur. Donc c'est un gars qui est marqué très à droite, hein, puisque quand il parle, quand on lui explique que les guerres américaines actuelles ont poussé à la radicalisation de l'islamisme, des islamistes, des musulmans, et a entraîné, a augmenté le nombre d'attentats, lui rejette ça. Donc il rejette tout en bloc. Donc c'est quelqu'un qui défend la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, qui défend l'attaque de Gaza par Israël. Et alors il va plus loin, ce gars-là. Il est il explique, trop d'enfants conduit à un nombre superflu de jeunes gens qui peuvent devenir ensuite des radicaux violents ou des futurs terroristes. En gros, ce qu'il explique, il propose qu'il faut trouver un moyen d'empêcher qu'il y ait autant d'enfants palestiniens quand il parle de la Palestine. Alors, je pense qu'il pourrait globaliser sur l'Afghanistan, sur plein d'autres pays. Mais là, il parle de la Palestine. Il dit, il faut empêcher que les Palestiniens fassent des enfants parce que potentiellement ça peut faire des résistants. Alors lui, il utilise le mot terroriste, des terroristes. Alors voilà, c'est une conférence qui a été filmée, qui est disponible sur Internet. C'est intéressant parce que ce gars-là, il respecte pas la convention de l'ONU de 48 sur la prévention et la punition du crime de génocide, parce que quand on incite à entraver les naissances au sein d'un groupe spécifique national, ethnique, racial ou religieux, on ne respecte pas c'est une incitation au génocide, en fait, le fait de dire ça. C'est intéressant de voir jusqu'où peuvent aller les pro-israéliens. Et puis, je vais vous lire une phrase. Attention, elle est un peu longue. Je n'accepte pas que des personnes, responsables associatifs, politiques ou simples citoyens, appellent au boycott de produits au motif qu'ils proviennent d'Israël. Je souhaite que le parquet fasse preuve de davantage de sévérité à ce sujet. J'ai donc adressé une circulaire aux parquets généraux, leur demandant d'identifier et de signaler tous les actes de provocation à la discrimination. J'entends que tous les acteurs d'actes soient poursuivis dès qu'ils auront été identifiés, et notamment quand les appels auront été faits sur Internet. À cet égard, je salue la détermination du parquet dans l'affaire de l'individu qui avait appelé au boycott de produits israéliens par voie d'affichette dans un centre commercial de Mérignac. Ainsi s'exprime Madame Alliot-Marie, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux le 18 février, dans un discours au dîner de l'antenne bordelaise du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Donc voilà, elle rappelle que le boycott est interdit. Donc on n'avait pas le droit de dire il y a quelques années qu'il fallait boycotter les produits sud-africains parce que ça collaborait indirectement avec le régime de l'apartheid. Donc aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire qu'il faut boycotter les produits israéliens, puisqu'Israël ne respecte pas le droit international, que Madame Alliot-Marie est censée respecter, mais elle préfère ne s'allier avec des gens qui ne le respectent pas. Donc on n'a pas le droit de dire que pour des raisons militantes, on doit boycotter certains produits. On n'a pas le droit de dire qu'on doit choisir certains produits. On n'a pas le droit de dire tout ça. Bon, on va le dire quand même, puisqu'il est du devoir de chaque citoyen de choisir les produits qu'il consomme, et qu'effectivement consommer un produit israélien revient à donner de l'argent à Israël, c'est-à-dire à collaborer avec Israël. Donc quand on le fait, c'est qu'on est d'accord et qu'on soutient Israël. Il n'y a pas de remise en cause là-dessus. Voilà. Donc on est dans un État qui est quand même très liberticide. On rappelle que d'autres pays anglo-saxons comme les États-Unis ont cette liberté, les citoyens ont cette liberté-là, les hommes politiques ont le droit d'appeler au boycott, mais la France est un pays avec un peu moins de liberté. Allez, on parle des États-Unis, c'est pas toujours tout rose non plus. L'administration Obama a appelé aujourd'hui le Congrès à ne pas voter une résolution sur le génocide arménien. Donc ça recule, ça recule, ça recule, c'est quand même terrible. Le génocide arménien, des Arméniens par la Turquie en 1915 a bien eu lieu. Il faut apprendre à vivre avec l'histoire, à assumer, reconnaître ce génocide. C'est pas dire que les Turcs sont tous des assassins aujourd'hui. On est quand même des êtres évolués. Reconnaître cette phase sombre du passé de la Turquie n'engage en rien des relations actuelles avec la Turquie. Il faudrait apprendre ça. Vraisemblablement, Barack Obama est un révisionniste historique, hein, puisqu'il ne veut pas reconnaître ce qui a bien eu lieu, hein, puisque le génocide a quand même bien eu lieu. Voilà. Un petit mot sur les grèves. Alors, il y a eu des grèves en Grèce hier. Aujourd'hui, c'était au Portugal. Alors, grosso modo, c'était les fonctionnaires qui étaient appelés à la grève. Alors, les fonctionnaires, ça touche comme chez nous, hein, les écoles, les hôpitaux, les ordures. Alors, chez nous, de moins en moins, parce que c'est privatisé, en partie. Alors, ils se plaignent du gel des salaires, de la politique mise en place par le gouvernement. Il faut dire que c'est un peu comme chez nous, c'est-à-dire c'est un pays libéral. Donc, l'année dernière, le système financier international avait des problèmes. L'État a ponctionné un maximum les impôts des citoyens pour aider les banques, pour soutenir un petit peu son industrie, son pays, enfin les forces économiques. Et puis aujourd'hui qu'il faut payer les dettes, Eh ben, on les fait payer à la fonction publique, donc on diminue les fonctions, les rôles et l'impact de la fonction publique. Donc voilà, c'est les politiques néolibérales habituelles. Vraisemblablement, ça résiste, mais c'est un peu comme chez nous, ça résiste. C'est difficile de résister à ce qui domine le monde de manière totalitaire, c'est-à-dire le système économique.
Oui, et hier, il y a eu, c'était une bonne journée pour un certain nombre de gens. Le premier, c'est aux États-Unis, puisque le district de Columbia est la sixième juridiction américaine à autoriser les mariages gays et lesbiens. Donc, c'est encore une fois une petite révolution. Hein. Évidemment, l'idée, c'est qu'on se soucie plus de savoir qui se marie et puis même de savoir si c'est important de se marier. Mais là, c'est quand même une belle bataille. Il faut savoir que la Cour suprême a rejeté un appel à la dernière minute qui concernait donc l'interdiction de ces mariages homosexuels. Donc une bonne date qui restera, je pense, à Washington dans les esprits. Et puis parallèlement en Espagne, hier aussi une belle date, puisque a commencé un débat sur l'interdiction de la corrida. Donc c'est en fait au Parlement catalan que ça se passe. Il y a en fait une organisation qui s'appelle PROU, qui veut dire assez en catalan, qui a lancé une énorme initiative populaire. Il y a déjà 180 000 signatures pour demander donc l'interdiction de la corrida en Catalogne, ce qui a lancé un débat, et on va voir ce qui en ressort, mais voilà, ça durait aussi aujourd'hui. C'est déjà une première chose dans un pays où il est assez difficile de parler de tauromachie, voilà, et de corrida.
La torture des animaux en public est autorisée et très soutenue. Un petit mot sur l'extrême droite aux Pays-Bas, puisqu'il y a eu des élections et c'est une catastrophe. Élection municipale à Almere, ou Almere, je ne sais pas comment ça se prononce, 187 000 habitants. Le parti qui arrive en tête, c'est le parti d'extrême droite de Geert Wilders. Autre élection municipale à La Haye, le parti d'extrême droite est arrivé deuxième, donc c'est toujours la catastrophe aux Pays-Bas. Le parti d'extrême droite augmente, à savoir que donc ils ont plein de sièges, hein. Par exemple, donc à La Haye, où ils sont arrivés deuxième, ils ont 8 sièges, je crois, et les autres, le premier en a 10, donc ils sont très très proches. Donc c'est très très inquiétant. Il faut savoir qu'il y a bientôt d'autres élections plus importantes, et ben voilà, ça laisse pas présager de très très bonnes choses, cette montée de l'extrême droite aux Pays-Bas. Et puis un petit mot sur des gens que vous connaissez sûrement pas. Ils s'appellent les Jouma. Alors je vais vous expliquer un peu. Ils habitent les Chittagong Hill Tracts. C'est une région montagneuse et accidentée du Bangladesh. Donc ils sont ethniquement et culturellement, linguistiquement totalement différents de la population du Bangladesh. Hein. C'est une sorte de population locale d'Indiens. En fait, on pourrait appeler ça des Indiens, parce que maintenant tous les gens qui sont un peu isolés, on appelle ça des Indiens. C'est un peu les Indiens du Bangladesh. Alors ils ont une manière de vivre un peu particulière. Ils vivent sur des pentes escarpées, donc ils pratiquent une agriculture sur le brûlis, donc ils cultivent un bout de parcelle, après ils pratiquent ce brûlis, ils passent sur la parcelle d'à côté et ça tourne comme ça sur plusieurs années. Donc une culture traditionnelle, une vie assez traditionnelle. Alors le gouvernement du Bangladesh a longtemps considéré cette région comme une terre vierge où il n'y avait pas d'habitants. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en Amérique du Sud, hein, quand même, certaines fois. Et donc ils ont installé des Bengalis pauvres et sans terre, sans aucune considération pour ce peuple que sont les Jouma et les. Enfin, ils sont assez nombreux quand même, finalement. Aujourd'hui, donc ça a commencé il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, les habitants originaux, c'est-à-dire les Jouma, sont minoritaires démographiquement dans cette région, ce qui n'empêche pas des exactions permanentes. Depuis 71, il y a eu assassinats, tortures, viols, incendies de villages. Voilà. En 97, la situation s'améliore. Les Jouma signent un accord avec le gouvernement, un accord de paix qui est censé mettre fin à ce qui leur arrive. Sauf que cette semaine, ça a à nouveau dégénéré. Des nouveaux colons se sont installés dans une région, dans un coin où il y avait encore que des Jouma, et les nouveaux colons ont attaqué les villages autour. Donc ils ont incendié 400 maisons, ils ont détruit 2 temples bouddhistes, 2 églises et une école. Ils ont tabassé, voilà, tout ça avec l'aide de l'armée du Bangladesh. C'est un peu comme tout pays qui colonise. Alors là, c'est plus compliqué que la colonisation qu'on connaît habituellement en Amérique, mais c'est un peu ça quand même. Donc voilà, c'est quand même triste. Alors l'Union européenne a fait un commentaire, enfin une démarche officielle en disant que c'était inadmissible, qu'elle condamnait ces attaques et qu'elle demandait l'ouverture d'une enquête indépendante pour que les responsables soient poursuivis en justice, comme ça n'arrive en généralement pas au Bangladesh. Les Jumas vont continuer d'en prendre plein la gueule, comme tous les peuples autochtones colonisés finalement. Quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, quand on est autochtone et colonisé, on galère. Amérique du Sud maintenant, allez, un petit mot sur le Guatemala. 43 dirigeants paysans et syndicalistes ont été assassinés en 3 ans par les milices au service de l'État et des entreprises. C'est le capitalisme allié à la force publique qui est responsable de tout ça. C'est un rapport qui a été publié qui s'appelle Guatemala 2. Le prix de la liberté syndicale. Donc ça s'est beaucoup aggravé depuis l'arrivée du dernier président, Alvaro Colom, qui est arrivé en janvier 2008. Par exemple, en 2008, il y a eu 16 meurtres contre des dirigeants sociaux, contre seulement un en 2006. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est les syndicalistes qui sont attaqués, mais surtout en premier, depuis quelques années, ce sont les défenseurs des ressources naturelles, les écolos. Pourquoi ? Parce que dans ces pays, le capitalisme veut utiliser la terre pour des mines, pour de l'agriculture productiviste, etc. Les écolos défendent ça, et le capitalisme, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font ? Elles payent des tueurs pour aller assassiner ces responsables, ce qui est que c'est 43 morts ces dernières années. Voilà, un petit truc. Et puis sur la Colombie, on a un rapport officiel suite aux démarches qui s'appelle Justice et Paix, où les paramilitaires, en échange de peu de poursuites, peuvent se démilitariser, les milices de droite, là, d'extrême droite, qui attaquent l'extrême gauche, les FARC, qui sont au service du gouvernement de manière indirecte, hein, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu ça. Donc, ils rendent les armes dans ce processus. Là, il y a 32 000 paramilitaires qui ont rendu les armes. Et là, ils ont expliqué ce qu'ils ont fait, et ils ont le rapport qui vient d'arriver, enfin, qui est arrivé il y a à peu près une semaine. Nous explique qu'ils ont avoué avoir commis 30 470 meurtres. C'est quand même pas mal. Donc depuis le milieu des années 80 jusqu'au début des années 2000, on a 1000 massacres, 1400 recrutements de mineurs, 2500 disparitions forcées, 2300 déplacements forcés, 1600 extorsions, plus de 1000 enlèvements et donc en tout 30 470 meurtres. Ils seront assez peu poursuivis. On dit toujours que les FARC c'est les méchants, c'est les horreurs, c'est les salauds, c'est tout ce qu'on veut parce qu'ils ont enlevé la Bettencourt, mais en face c'est largement pire. Mais comme c'est des paramilitaires de droite, proches du capitalisme d'État et de l'État, notamment d'Uribe aujourd'hui au pouvoir, voilà, ils ont le droit de faire leur mea culpa et d'être assez peu poursuivis. Deux petits mots sur la peine de mort. Un homme au Texas a été tué par injection létale, si je me trompe pas, oui, par injection létale, donc c'était en début de semaine. Il a mis 16 minutes pour mourir quand même, hein, 16 minutes de souffrance. On remerciera donc le Texas d'avoir encore et toujours assassiné, troisième assassiné depuis le début de l'année, 450 exécutions depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976. En Iran, c'est pas beaucoup mieux, puisque la cour d'appel iranienne vient de confirmer la peine capitale contre Mohamed Amin Valian. C'est un étudiant de 20 ans qui avait manifesté lors de ces manifs là il y a quelques mois contre la réélection du président iranien. Il a été accusé de rébellion contre Dieu, donc passible de la peine de mort, a été condamné une première fois, et là ça a donc été confirmé, il a été condamné à mort. Et puis 3 assassins et 5 trafiquants de drogue ont été reconnus coupables de tous ces faits là ont été exécutés cette semaine en Iran. En Iran, on en est à 25 depuis le début de l'année, et l'année dernière 270 personnes ont été condamnées à mort et exécutées en Iran. Voilà, un petit mot sur la Vélorussion maintenant, sur la partie nationale, et après on parle de Claude. Donc le petit mot, alors avant Claude j'aurai une autre info. Un petit mot sur la Vélorussion. Alors la Vélorussion s'est invitée à Primevert, le salon de l'écologie et des alternatives, paraît-il. Donc on s'est promené, on a mis une heure pour aller là-bas. Arrivé sur place, a priori, les Vélorussionnaires sont accueillis de manière froide, voire pire, par les organisateurs. La question à se poser, c'est est-ce que les vélorussonnières ne sont pas trop écolos pour Prime Vert aujourd'hui, qui est plutôt le chantre du capitalisme vert, un peu, même s'ils se défendent en disant qu'il y a un tiers d'associations, voilà. Donc en gros, on rappelle que autrefois le salon Prime Vert avait lieu dans le centre de Lyon, donc on pouvait y aller facilement à pied, en vélo et en transport en commun. Aujourd'hui, il a lieu à Eurexpo. Alors malgré des navettes de bus, la majorité des gens y vont en voiture, ce qui est quand même relativement incohérent. Donc la Vélorussion a décidé de se poser devant Eurexpo avec un stand, des t-shirts, des badges, de la soupe, du thé, des gâteaux à prix libre, avec des tracts. Les visiteurs sont relativement sympas. Ils discutent, ils sont prêts à discuter de leurs contradictions. Par contre, les organisateurs, pas du tout. Ils vont jusqu'à nous traiter de parasites. Je vous laisse écouter un petit montage de 2 minutes où on entend un des responsables du salon Prime Vert nous invectiver.
C'est la pré-écologie, c'est ça qui...
Moi, si j'étais informé pour venir voir là, c'est que ça se passe mal. Donc si ça se passe
qu'est-ce
mal...
Qu'est-ce qui va se passer mal?
Bah, par exemple, ça...
Mais quoi c'est mal?
C'est que Prime Vert, c'est fait et organisé pour mutualiser des moyens, pour faire accéder le grand public à une manifestation, à des connaissances et à des artisans, des fabricants qui travaillent pour l'écologie. Et la Vélorussion, elle vient ici et elle profite de ce que les autres louent un endroit pour faire passer son message. Son message ne nous gêne pas, au contraire. Mais on participe à l'effort commun et on finance tous ensemble. Prime Vert, c'est qu'un outil de mutualisation, c'est pas une multinationale qui fait du fric.
Oui, mais ça n'empêche pas que des gens soient critiques du fait que ça soit essentiellement accessible à la voiture, qu'il n'y a pas de parking à vélo, qu'il n'y a pas de moyen de venir en vélo.
Nous, on essaye de faire quelque chose pour que tous les mouvements écologiques et tous les artisans, les fabricants écolos aient une audience et rencontrent le grand public. Actuellement, vous nous parasitez quelque part. C'est-à-dire que vous profitez des moyens que se donnent certains sans vous-même vous donner des vrais moyens pour y participer. Donc c'est ça qui nous gêne. Non, c'est pas une ridicule. Bataille dans une cour de récréation.
Non, on parce va pas nuire à ce qui se passe dans le salon. Si on voulait faire une action à l'intérieur,
c'est pas que vous nuisez.
Là, c'est parce qu'on
c'est pas que vous nuisez.
On vient devant.
Mais non, c'est pas ce que je dis.
Non, on est super sympa. Il y a des badges.
C'est pas ce que je
vous
dis.
Vous avez même pas regardé les badges.
Non, vous comprenez pas ce que je veux dire. C'est pas une histoire de nuire. On est tout à fait d'accord avec ce que vous faites. Mais ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas donner, de pas mettre la main à la pâte et de vous engager comme les autres. Mais non.
Ça nous a déjà bien fatigués.
Mais non. Vous mettez pas la main à la pâte. Ceux qui sont là-dedans.
On le fait juste de manière différente de la vôtre, c'est tout. Mais on laisse ce qui se passe déjà à l'extérieur.
Mais non, vous profitez. Vous êtes un peu comme les parasites, c'est-à-dire que...
Ah, c'est gentil, ça.
Au niveau...
Parce qu'on fonctionne pas comme vous.
C'est pas parce qu'on fonctionne pas. Parce que vous fonctionnez pas comme nous, c'est que vous refusez de participer, de donner la main et de vous investir suffisamment.
Mais on s'investit à notre manière.
Mmh. Oui, mais il y en a qui s'investissent d'une manière et vous profitez de la manière dont les autres s'investissent.
On profite pas.
Tous les jours, on s'investit dans la rue avec nos vélos et on va voir les gens et on discute avec les gens.
C'est
pas qu'à Prime Vert une fois dans l'année.
Mais simplement, on est engagé en
dehors. Ça tue et ça pollue. Ça pue, ça tue et ça pollue.
Voilà donc un accueil pas très sympa.
Le truc, c'est que vous n'aviez rien à vendre et c'est là votre erreur.
En fait, je crois qu'ils n'ont pas compris qu'on ne voulait pas prendre un stand, c'est-à-dire payer un stand, et qu'on n'était pas dans une démarche commerciale, que tout était à prix libre, par exemple. Ils ne comprenaient pas la notion de prix libre, pas bien. Pourtant, le salon avait comme thème la gratuité cette année, mais vraisemblablement, c'est un truc théorique pour eux et pas du tout pratique. Donc voilà. Mais la Vélorussion est restée 3-4 heures quand même devant le salon, à discuter avec les gens, à faire du son, à faire du bruit, puisqu'il y avait une batucada, voilà. Et à distribuer des tracts. Parlons de Claude.
Alors, Claude, il a fait beaucoup parler de lui ces quelques jours, puisqu'il a sorti un nouveau livre dont je vous laisserai apprécier chez votre libraire la couverture, puisqu'on le voit en costume, debout sur une banquise. C'est absolument stupide. Alors, je voulais revenir un peu parce que c'est vrai, comme tu le disais, Laurent, Claude Allègre a laissé des souvenirs mémorables dans la tête et les souvenirs de certains, en particulier chez les enseignants. Il a en fait trois carrières qu'on pourrait un petit peu distinguer. D'abord, une carrière scientifique, évidemment. Hein, il a un doctorat en sciences physiques. Il est géochimiste. Il a obtenu plusieurs prix dans les années 80, plus la médaille d'or du CNRS en 94. Donc, a priori, on peut se dire qu'il est bien dans les cursus scientifiques. Mais c'est vrai que déjà, dès 76, il fait parler de lui, puisqu'il est à ce moment-là directeur de l'Institut de physique du Globe de Paris. Et au moment où le volcan en Guadeloupe, la Soufrière, se réveille, il prend des décisions sur l'évacuation de la population qui va provoquer une polémique assez importante avec le volcanologue Haroun Taziev. Et ça l'a un petit peu poursuivi un petit peu au départ. Il faut savoir qu'à côté, il est membre de l'Académie des sciences françaises. Donc il a ce petit parcours et puis en 92 il va devenir le président du bureau de recherche géologique et minière et donc là il se retrouve avec des fonctions économiques puisque c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, ce qu'on appelle un EPIC. Hein, c'est un établissement qui est sous la tutelle du ministère de la recherche. Et il se retrouve face à un petit problème qui va encore le poursuivre cette fois-ci. C'est en fait la France, elle a des actifs dans une mine au Pérou, la mine de Yanacocha. Et la France laisse échoir tout ça et donc elle se retrouve expropriée. Et alors là où Claude Allègre intervient, c'est qu'en fait il est suspecté d'avoir comment dirais-je reçu un petit peu des pots de vin pour se permettre en fait de un train de vie assez élevé. Il se serait servi donc de ses fonctions au sein de cet établissement. Ça lui vaudra de perdre sa fonction en 97. Donc c'est un dossier aussi ça qui l'a un petit peu poursuivi. Le Canard Enchaîné avait beaucoup parlé de cette affaire à l'époque. Et puis, il a toute cette carrière politique qu'on lui connaît bien. Il est rentré au PS en 73. Depuis, il a lâché sa carte, hein, puisque aux élections européennes de juin 2009, il a annoncé sans état d'âme, comme il le dit lui-même, et sans hésitation, qu'il votait donc pour l'UMP. Il faut savoir qu'en 2008, Nicolas Sarkozy avait déjà commencé un petit peu à se rapprocher, plutôt on peut dire que c'est Claude Allègre qui avait commencé à se rapprocher de Monsieur Sarkozy pour entrer au gouvernement. À ce moment-là, les scientifiques avaient un petit peu mené la bataille contre Monsieur Allègre, mais Nicolas Sarkozy lui a quand même confié le soin d'organiser les assises européennes de l'innovation qui ont eu lieu en août 2008. Voilà, mais là où on se souvient surtout de Monsieur Claude Allègre, c'est évidemment comme ministre de l'Éducation nationale sous Lionel Jospin. C'était de 97 à 2000.
Une catastrophe.
Voilà, comme tu le dis, mais enfin, c'est vrai que souvent ceux qui sont à l'éducation sont les ministres. On se souvient souvent d'eux quand même, parce que ils essayent tous de réformer la chose. Donc, il va se lancer dans une réforme des gestions du personnel enseignant. Il va s'attaquer aux heures supplémentaires, ce qui est pas une mauvaise chose, hein, là, en soi, d'annuler des heures supplémentaires. Mais le problème, c'est que il prend les enseignants pour des abrutis, puisque évidemment, messieurs, mesdames, vous êtes des glandeurs, vous ne travaillez pas beaucoup, et puis vous êtes surtout très absents. Hein, il leur a donné des chiffres qui, d'ailleurs, ont été prouvés qu'ils étaient totalement faux. De la propagande. Et puis surtout, il a défendu le rapprochement de l'école et de l'entreprise.
Ouais, alors en fait, c'est un productiviste. Il veut pas faire des citoyens, il veut faire des travailleurs. Il est dans la ligne droite de la droite la plus libérale. Voilà, on fait des travailleurs. D'ailleurs, il avait tenté de supprimer la philosophie en section professionnelle parce que la philosophie, ça sert à rien. Ça sert à un citoyen, ça sert pas à un travailleur, d'après lui. Donc, il avait tenté de la supprimer. Il y avait eu réaction et ça avait foiré. Mais voilà, il essaye de dégraisser le mammouth, c'est ce qu'il avait dit. Son but étant de faire juste des travailleurs. C'est un productiviste, ce gars. Il ne pense qu'à produire. Il faut que tout produise. Il est pro-croissance. Il faut qu'on produise. Il est obnubilé par ça. Et l'école, quand elle produit pas, quand elle forme des gens qui vont réfléchir au lieu de produire, ça lui allait pas. Vraisemblablement, c'était ça, quoi.
Oui, dès 98, hein, il y a des mouvements de grève assez importants. Les enseignants
on s'en souvient.
Mènent la bataille, bah ouais. Et puis il faut savoir qu'il y a aussi cette donc loi Allègre de 99, hein, sur l'innovation et la recherche, qui a permis aux universitaires, aux chercheurs de créer des entreprises type start-up, hein, vous voyez, genre de choses, et de déposer des brevets. C'est sûr que c'est pareil. On met du capitalisme dans de la recherche. Il est exactement dans ce processus. Hein,
ouais, c'est un gars de droite dans un habit de gauche.
Ouais, alors les syndicats, ce qu'ils au projet, c'était de la massification de l'école, c'est ça dont il parlait, hein. C'est ces termes. Il disait aussi, les enseignants ont 4 mois de vacances et en plus, ils prennent leur congé formation sur la scolarité. C'est pas mal. C'est vrai que
d'ailleurs, on lui rappellera,
les travailleurs, c'est pareil.
Ce qu'on lui avait dit, c'est que les 2 mois d'été ne sont pas payés pour les enseignants, puisque le salaire des enseignants est calculé sur 10 mois et redivisé par 12 ensuite. Donc voilà, mais ça, il était très pro-mensonge quand ça sert son discours. C'est quelqu'un de spécialiste pour manipuler les chiffres, les noms, les données, un peu tout.
Ouais, il s'en était pris aux maths aussi, en disant que de toute façon, maintenant, il y avait les machines pour faire les calculs, donc globalement, il n'y avait plus besoin de rien savoir. Il s'en est pris aussi aux Français qui ne veulent pas s'adapter, puisqu'il disait en 97, les Français doivent cesser de considérer l'anglais comme une langue étrangère. Ça avait fait aussi beaucoup polémique à l'époque, et donc les manifestations s'étant succédées, en 2000, il va devoir laisser sa place à Jack Lang, qui va donc lui succéder. Donc c'est un homme à polémique, hein, c'est un cumulard de la polémique et de la provocation quand même depuis les années 90, il les enchaîne, et parfois, franchement, il cherche la merde, il faut le dire. Hein.
C'est un peu comme Georges Frêche, en fait, c'est son équivalent scientifique, un peu. Il fait du bon mot pour faire de la polémique, pas qu'il ait des idées vraiment qu'il porte, il choisit le truc qui pourrait être le plus polémique pour qu'on parle de lui. Faut savoir que il s'est reconverti, hein, autrefois il était scientifique dans un domaine particulier, depuis il est journaliste. Hein, donc il fait un édito, je sais plus dans quel journal. C'est toutes ces polémiques lui ont permis d'avoir ce nouveau travail, en fait. Il a travaillé pour lui, pour son CV, hein.
Alors, il faut savoir que quand il était directeur de l'Institut de physique du Globe de Paris, il s'est retrouvé transféré avec les bâtiments à Jussieu. Et donc, en grand connaisseur, il faut se souvenir aussi de ce scandale qu'il avait provoqué en 96 en disant que la décision de désamiantage du campus de Jussieu, c'était une affaire, en fait, un phénomène de psychose collective. Ouais, tout ça, c'était en fait...
Donc l'amiante, c'est pas grave.
Voilà, c'est pas grave, hein, ça tue des gens, mais c'est pas grave. Il s'était fait aussi attaquer en 2000 par le Canard Enchaîné, puisqu'il avait mélangé du vocabulaire. Enfin, c'est une grande habitude chez lui. Hein. Et puis pourtant, j'ai quand même réussi, suite à cette affaire de son nouveau livre, à trouver des gens qui le défendent, hein, sur Internet. Il y en a encore quelques-uns, dont une Françoise Ewald, dans Les Échos, mais aussi sur le site sled.fr, on a trouvé aussi un soutien. Et puis j'en ai trouvé un très drôle sur le site, le blog de La Droite Libre, un mouvement libéral conservateur associé à l'UMP, comme ils le disent eux-mêmes, les défenseurs d'Allègre, ils sont là, hein, ils sont pas ailleurs. Ou alors, comme on le verra tout à l'heure, ils sont chez les parano des ovnis et de la CIA, avec le complot international qui fait que tout le monde nous ment, et en particulier les scientifiques. Alors, évidemment, quand dans ce livre, L'imposture climatique, hein, c'est chez Plon, si vous avez encore pas vu la couverture, il s'en prend à des gens dont nous-mêmes, enfin, on a l'habitude de taper. C'est-à-dire, par exemple, il s'en prend à Al Gore ou à Nicolas Hulot, des gens qui ne sont pas des scientifiques. Donc c'est très drôle qu'ils s'en prennent particulièrement à des gens
qui, ou nous, les écolos, ceux voilà. qui pensent un peu à la planète, critiquent déjà Al Gore. Al Gore, c'est un escroc de l'écologie, c'est un capitaliste qui fait de l'argent, qui pollue 10 fois plus que nous deux réunis. Donc voilà. Et Nicolas Hulot, c'est pareil, il se déplace en hélicoptère au lieu de se déplacer à pied ou à vélo. Donc voilà, il s'attaque à des gens qui sont de toute manière attaqués par les écolos. Donc c'est un truc un peu drôle, quoi.
Alors, je vais pas forcément revenir en détail sur toutes les bêtises qu'il pointe, enfin, qu'il déclame dans son livre. Je vous laisserai aller sur le blog de Libération sur Libé Science. En fait, il y a quatre parties qui reviennent précisément sur le contenu du livre et amènent des réponses assez précises et assez argumentées. Mais c'est vrai que, par exemple, il fait tout le temps le mélange entre climat et météo, comme si c'était la même chose, alors que ça ne l'est pas. Donc c'est voilà, on sait pas bien s'il se moque de nous ou s'il le fait exprès.
Je pense qu'il le fait exprès puisqu'il est intelligent, puisqu'il a fait des études supérieures. Donc tout ce qu'il fait, c'est consciemment, quoi.
Alors, de toute façon, les climatologues, pour lui, c'est un lobby de spécialistes météo du monde entier qui travaillent dans un intérêt financier. Pas des scientifiques, hein, attention. Il nous explique donc que la météo étant imprévisible à plus de 4 jours, il va être difficile de savoir ce qui va se passer dans un siècle, jusque, encore une fois, entre météo et climat.
La climatologie, c'est pas du tout pareil.
Voilà, ça n'a rien à voir. Voilà,
hein. Le GIEC n'a jamais dit quel temps il allait faire à Paris en 2052. Hein, je n'ai jamais vu ça. Par contre, il donne une température moyenne de la France et de la Terre à cette époque-là. Ça n'a rien à voir.
Bon, voilà. Alors, évidemment, lui, il est pour les OGM, hein.
Il est pro-nucléaire aussi.
Il est pro-nucléaire. Il dit aussi que l'Antarctique ne semble pas fondre. En tout cas, ce n'est pas perceptible, pardon. Hein.
C'est bizarre parce qu'il y a des mesures chaque été où, il mesure un peu la taille des glaces et il se rend compte que il y en a de moins en moins.
En fait, c'est des glissements qui se font progressivement, des détachements.
Voilà. En Arctique, ça se voit très bien. En Antarctique, c'est des morceaux de glace qui partent et on en trouve de plus en plus. D'ailleurs, ça a eu des problèmes sur les bateaux puisqu'il y a des rencontres impromptues entre les bateaux et les glaces. Donc voilà, donc effectivement, ça semble pas très juste ce qu'il dit.
Qu'est-ce qu'il nous parle aussi? Il nous parle d'une étude qui préciserait des réalités au niveau des températures et tout ça, juste que c'est la publication, elle n'existe pas, elle n'a jamais été retrouvée.
Je crois qu'il a inventé un chercheur aussi.
Ouais, c'est ça, il s'est mélangé entre une personne et
le nom de l'institut.
Groupe, ouais. Voilà. Bon, il a un peu du mal, même le GIEC, il a un peu du mal à dire ce que ça veut dire. Donc voilà, tout le monde pointe un petit peu des choses. Il se base sur des tableaux qui, certes, étaient parus en 2005, mais depuis, en 2007, ils ont été réfutés puisqu'il y avait un certain nombre d'erreurs à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire qu'il est encore sur du matériel vieux.
Qui a été remis à jour.
Voilà.
Alors qu'il connaît, il sait que la science, elle se remet en cause en permanence, qu'elle évolue. Hein, c'est un principe de base de la science, c'est qu'on peut tout remettre en cause si on apporte la preuve que c'est faux. Donc, il se sert de ça, mais sans se servir des derniers résultats. Donc, c'est vraiment un manipulateur parce qu'il connaît très bien le fonctionnement du système.
Oui, oui, non. Et puis en plus, il prétend qu'il y a en fait tout plein de scientifiques qui sont d'accord avec lui sur le changement climatique et sur l'effet de serre, hein, puisque je vous rappelle que il n'y a pas d'effet de serre selon Monsieur Claude Allègre. Et en tout cas, l'homme n'y est pour rien s'il y en a un.
S'il y a une augmentation.
Voilà. Alors finalement, ouais. Il dit qu'il y en a un, puisqu'il a répondu à l'article du Monde qui a été un détonateur un petit peu pour le reste de la presse, en disant si il y a effectivement il y a un petit peu un effet de serre, mais enfin c'est pas la cause de l'homme. Et donc il dit que les scientifiques sont d'accord avec lui, chose qui semble totalement fausse. D'ailleurs, il se sert de l'appui de certains scientifiques qui depuis ont dit qu'ils n'avaient jamais manifesté le moindre soutien à Monsieur Claude Allègre. Donc malheureusement, c'est un livre qui se vend très bien.
Ouais.
Ouais. Et alors donc voilà.
Comme c'est justement ça, c'est qu'il est polémique. Donc il fait ça pour vendre, pour gagner de l'argent. Bah, il fait du business.
Le complot international, ça fait vendre, malheureusement. On sait bien. Et comme il y a les comploteurs, les méchants scientifiques avec les associés aux vilains capitalistes, dont Nicolas Hulot serait l'emblème. À côté, main dans la main avec Al Gore, vous voyez un petit peu le tableau, donc évidemment ça fait vendre. Il croit au progrès, hein, au nucléaire, donc tout est basé là-dessus, hein, sur le progrès va sauver l'homme.
Ouais, il n'a
pas de remise en question.
Voilà, il est dans la démarche où tout ce qu'on invente a des effets négatifs, il peut le reconnaître, mais il est persuadé qu'on va inventer d'autres choses pour compenser ces effets négatifs, qui vont créer d'autres, etc. Il est dans cette démarche-là. Donc, on trouve un pansement à chaque fois qu'on fait une connerie. Plutôt que d'empêcher la maladie de se répandre, lui, il cherche des médicaments avec des effets secondaires à chaque fois plus importants, etc., etc. Il est dans cette culture du progrès scientifique, cette idéologie, qui est une idéologie, c'est pas une réalité. On peut vivre sans cette course effrénée au progrès scientifique. Donc, c'est vraiment, il est dans cette idéologie-là. C'est un scientiste.
Ouais, et puis les climatologues, il faut quand même savoir qu'ils les traitent de cavaliers de l'apocalypse. Hein, ils parlent de mafia chez les scientifiques. Donc il va, voilà, c'est aussi pour ça.
Il pourrait porter plainte. Je sais pas comment on peut porter plainte parce qu'il y a pas de mafia. La mafia, c'est un truc défini. On sait ce que c'est. On connaît la mafia caladoise. On connaît la mafia aux États-Unis. Il y a pas d'équivalent chez les climatologues. Hein. Ils font pas du trafic de drogue. Ils mettent pas des filles sur le trottoir. C'est pas du tout ça, hein, les climatologistes. Hein. C'est...
Non, mais finalement, il insulte plus qu'il lance vraiment du débat.
Voilà, c'est ça.
C'est exactement ça. C'est dire finalement, il est dans une provoque. Juste comme ça, vulgaire et rapide, hein, il vend ses bouquins, il en a quand même écrit finalement quelques-uns. Une des phrases qu'il a dit, c'est « Ayons confiance, non au repli frileux, oui au progrès, oui à l'homme ». Avec tout ça, on va y aller. Hein. Allez, c'est parti.
Non, mais pour lui, tout le progrès est positif. Voilà. Le Tchernobyl, c'est pas grave, c'est un petit truc, ça explose un endroit, mais le nucléaire, c'est positif. Alors ça tue des milliers de personnes, ça fait un moment un truc négatif, qui aura un impact pendant des millions d'années, mais c'est pas grave. On ferme les yeux là-dessus, puis on continue d'avancer. On détruit autour en avançant. Hein, il est dans cette idéologie-là. On avance. On va à fond. On se posera les questions après. C'est pour ça qu'il aimait pas la philosophie, je pense. C'est parce que dans la philosophie, on étudie beaucoup la science. Dans la philosophie, hein, ceux qui ont fait des études scientifiques, ils savent que la philo, elle est orientée scientifique. Et la philo permet de se remettre en cause. Ce qu'on fait. Eh ben, lui, il rejette. Donc, il la rejetait pour les élèves. Il la rejette pour lui-même, en fait. C'est qu'il préfère foncer sans réfléchir plutôt que de se poser et de dire, attends, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on réfléchit. Lui, il est dans, je fonce, je réfléchis pas.
Oui, et puis tous ces attaques, il les fait pas d'un point de vue scientifique. Il les fait vraiment dans le cadre d'ouvrages, soit dans des articles de presse, soit dans des ouvrages de vulgarisation scientifique, qui n'en sont même pas. C'est de la vulgarisation politique de bas étage, et c'est surtout sur ça qu'il est attaqué avant toute première chose.
Hein. En fait, alors sur l'imposture scientifique, il y a quelques années, il y avait un journaliste qui s'appelle Michel Dopracontal qui avait sorti un très beau livre qui s'appelait L'imposture scientifique, si je me trompe pas, et il expliquait tous les types d'imposture scientifique. Et il y en a une qui est utilisée par Allègre, c'est un scientifique renommé dans un domaine, compétent, qui parle d'un autre domaine. Et là, on a tout et n'importe quoi. Et Allègre, c'est ça. Il n'est pas du tout spécialiste du climat, Allègre. Il n'est pas spécialiste du réchauffement climatique. Il n'est pas spécialiste de ces enjeux-là. Mais comme il est scientifique dans un autre domaine, il a une certaine caution et il parle d'un domaine qui n'est pas le sien. C'est comme si d'un seul coup, il fallait qu'il parle des OGM. Alors, il est sûrement pro-OGM, mais il va donner son avis scientifique alors qu'il est égal à n'importe quel citoyen, puisqu'il n'est pas du tout spécialiste de ce domaine-là. Voilà, c'est ça. C'est un scientifique dans un domaine, mais il parle d'un autre, là. Alors, et donc, il y connaît autant que vous et moi. Alors, et en plus, peut-être moins.
Sur les gaz à effet de serre, ça bouge puisque pas tant au niveau scientifique cette fois, mais en tout cas au niveau judiciaire, puisque des Américains veulent poursuivre les compagnies pétrolières et chimiques qui l'accusent d'avoir accéléré le réchauffement planétaire et renforcé l'ouragan Katrina. Qui a fait 1200 morts, je vous le rappelle. Donc, ils ont été rejetés en première instance, et puis finalement, leur demande a été déclarée recevable par une cour d'appel fédérale. Malheureusement, ça va être encore réexaminé. Hein. Vous savez, la justice est toujours compliquée. Il y a des appels et des appels. Mais voilà, ils estiment les plaignants que ces entreprises sont responsables du réchauffement. Et que donc, certes, Katrina est un point à un moment précis, mais ils sont certainement responsables de ce qui peut arriver. Et puis, on vient d'apprendre aussi par un rapport commandé par l'ONU. C'est les premières conclusions. Hein. Le coût financier de la pollution et des autres dommages causés à la nature par les 3000 plus grandes entreprises de la planète. Et alors, vous savez combien ça fait?
Non.
2 200 milliards de dollars, 1 600 milliards d'euros, pardon. Voilà, l'étude va certainement amener aussi apparemment des préconisations, comme la suppression des milliards de dollars qui sont de subventions données aux entreprises, hein, puisqu'elles polluent, qu'on arrête de leur fourguer du pognon. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on a ces deux affaires, hein, des Américains qui attaquent, des Nord-Américains qui attaquent des entreprises, et puis à côté, on a ce rapport qui arrive nous démontrant que le capitalisme tue et pollue.
Voilà pour Claude Allègre. Ben justement, je vais parler de gens qui sont assez proches dans la démarche. En fait, c'est vous êtes tombés dessus. C'est obligé en ce moment. Il y a une énorme propagande du lobby laitier. Donc c'est télé, journaux, panneaux publicitaires. Ils ont une nouvelle démarche. Ils disent aujourd'hui, pour être en bonne santé, il faut 3. C'est le chiffre à retenir. Produits laitiers par jour. Donc, je suis allé voir un peu sur le site du lobby des produits laitiers, donc sont nos amis pour la vie, vous vous rappelez. C'est pas tout à fait vrai, hein, on en le redira jamais assez. Alors d'abord, c'est plein de mensonges. Alors moi, je pensais que ces gens étaient un peu réglo, un peu honnête, pas du tout. Ça commence, en gros, quand ils décrivent tous les produits du monde et pourquoi les produits laitiers sont bien, ils disent « Le lait et les produits laitiers représentent une famille d'aliments indispensables à notre équilibre alimentaire. Ils aident aussi à nous maintenir en bonne santé. » Ben, c'est totalement faux. On peut vivre sans aucun problème, sans lait et sans produits laitiers, une fois qu'on est adulte. C'est pas du tout indispensable à notre équilibre alimentaire. Donc ils commencent, hein, par un beau mensonge. Ensuite, il nous explique que dans les produits laitiers, il y a du calcium, des protéines, des matières grasses, quand même, c'est vrai, de la vitamine A et des vitamines du groupe B. Et là, il nous explique qu'il faut 3 produits laitiers par jour pour l'enfant et pour l'adulte. 1 produit laitier à chaque repas. Attention, vous ferez bien attention à ça. Donc, il matraque ce message. Donc, le bureau de vérification de la pub, enfin, la version moderne du bureau de vérification de la pub, laisse passer les gros mensonges de la publicité, puisque jamais personne aucun scientifique sérieux et indépendant n'a jamais dit qu'il fallait, pour un adulte, manger 3 fois des produits laitiers par jour. On rappelle que les produits laitiers, normalement, le lait est réservé à l'enfant, que c'est un truc artificiel de l'Occident de manger des produits laitiers.
On aime bien le fromage, ne vous inquiétez pas. Commencez pas à paniquer derrière votre radio.
C'est juste contre la propagande, puisqu'effectivement, nous mangeons du fromage au lait cru. Alors, justement, pour revenir, le plus fort de la propagande, c'est que depuis tout petit à l'école, les profs, d'ailleurs, certains avec l'aide de mallettes pédagogiques fournies par les fabricants de produits laitiers, nous disent le calcium, c'est important pour les os, et le calcium, on en trouve dans les produits laitiers. Alors, tout part de là. Aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un dans la rue, est-ce que le calcium, c'est important? Il vous répond oui, et pourquoi c'est bon pour les os? Ça, c'est passé dans le grand public. C'est-à-dire que cette propagande, elle a été efficace. Sauf que, on se rend compte que dans la réalité, en tout cas au niveau scientifique, c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, le calcium est assez peu assimilé, le calcium du lait et des produits laitiers.
Oui, c'est pour ça qu'il faut de la vitamine D et que maintenant, ils en rajoutent exprès dans les yaourts.
Alors, la vitamine D aide à assimiler, mais surtout le magnésium. Alors, grosso modo, dans un produit laitier, 30% est assimilable. Si vous regardez certains légumes qui contiennent beaucoup de calcium, c'est 50 à 70% du calcium des légumes qui est assimilable. Donc c'est beaucoup plus. Et par exemple, une tasse de soupe avec du brocoli, c'est autant de produits laitiers que l'équivalent que le verre de lait, quoi. Que c'est autant de calcium, je veux dire, que le verre de lait. Donc l'idée que le calcium se trouverait essentiellement dans les produits laitiers et c'est là où il est le meilleur, c'est totalement faux puisque certains légumes, certaines légumineuses ont beaucoup de calcium et comme elles ont aussi du magnésium, il est beaucoup plus assimilable. Donc voilà. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que la façon de cultiver les légumes faisait qu'il y avait plus ou moins de calcium, notamment l'agriculture biologique ou biodynamique, augmente la quantité de calcium dans les légumes. Voilà. Et puis, dans la mode, aujourd'hui, de faire des produits enrichis en calcium, en magnésium, en vitamine D, c'est naturellement une vache à lait, si on peut utiliser le terme, ça tombe bien, pour le capitalisme, qui engrange de gros bénéfices. Mais par contre, c'est pas bon pour la santé, puisqu'on a une surconsommation et on peut avoir des surdoses. Alors c'est vrai qu'il est, c'est bien de manger la bonne quantité, mais quand, avec tous ces produits où c'est rajouté, eh ben, si on a une alimentation normale plus ces produits-là, eh ben, on est en surdose de vitamine D, de vitamine machin, de trucs comme ça. Donc voilà. Aujourd'hui, on peut, en tant qu'adulte, vivre sans manger les trois produits laitiers par jour et être en très très bonne santé. Et on peut, à l'inverse, manger des produits laitiers tous les jours et être en très mauvaise santé, puisque si vous mangez certains produits laitiers, vous avez aussi des effets négatifs, comme les matières grasses, qui sont pas forcément très très bonnes, et puis ça a d'autres effets négatifs sur la santé. Donc voilà, il faut casser cette propagande du lobby des produits laitiers. Et puis on rappelle que les protéines de lait aujourd'hui se retrouvent dans une bonne partie de l'industrie agroalimentaire. Donc sans le vouloir, si vous mangez des produits industriels, ça se trouve vous mangez 4 ou 5 fois des produits laitiers par jour sans vous en rendre compte. Non. T'avais des brèves là.
Ouais, une dernière qui a rien à voir avec l'environnement. Bon, on a appris que le 1er mars, certains décodeurs Canal+ avaient eu quelques soucis puisqu'ils n'avaient pas été paramétrés correctement.
Comme la PS3.
Voilà.
Et le 29 février fait beaucoup bugger le monde.
Il faut savoir qu'il y a des petits soucis avec les adaptateurs TNT, puisque certains sont déjà obsolètes. C'est bien, ça commence bien, le passage au numérique. Il y a eu une petite alerte pour dire qu'il y avait une centaine de milliers d'adaptateurs TNT qui risquaient une panne imminente. C'était 300 000 adaptateurs précisément, puisqu'ils ne sont pas compatibles avec les normes prévues pour la télévision numérique.
La nouvelle, c'est dans les régions où le hertzien analogique disparaît totalement, où il n'y a plus que de la TNT, ils changent les dispositions des chaînes, il y a un truc qui change, et effectivement, les décodeurs de première génération, voire ceux d'après, ne marcheraient plus, si j'ai bien compris.
Voilà, c'est ça, c'est que ça risquait donc de se passer le 5 mai 2010, pour tout dire. Effectivement, ils allaient changer des signaux, et alors là, ce qui risquait de se passer, c'est que les adaptateurs allaient se retrouver incapables de mettre les chaînes dans le bon ordre, d'en recevoir certaines, voire certains allaient carrément faire plouf et péter à la gueule. Alors finalement, apparemment, le CSA a trouvé une parade plus ou moins technique. Ça reporte tout ça à 2013, hein, le problème. Il n'est pas résolu, ils ont fait que repousser les emmerdes.
En se disant que d'ici 2013, tout le monde aura changé de petits trucs. Il faut savoir que les renouvellements de télé, autrefois on pouvait garder une télé 10-15 ans, aujourd'hui le matériel qu'on achète, écran plat, tout ça, si ça marche 5 ans, ça sera le bout du monde. Donc en fait, ils ont espoir qu'effectivement, ce qu'ils ont acheté, les petits modules ou les premières générations de télé, parce que ça concerne aussi les premières générations de télé, les gens les aient déjà jetés.
En fait, ils espèrent surtout que les gens continuent à acheter ces trucs. Donc un scandale qui aurait explosé bien fort avec 300 000 adaptateurs qui n'auraient plus fonctionné le 5 mai 2010, ça aurait fait un peu du bruit et les gens risquaient de se dire « Ouh là là, je vais pas acheter votre merde ». Parce que l'idée, c'est quand même de vous vendre le numérique et les objets qui vont avec. Donc voilà, on a appris ça. Cette semaine, c'est pareil. On verra, on en reparle en 2013 hein, pour savoir si on a réussi à débugger l'affaire.
Allez, dernière info écolo, environnementale, les OGM sont de retour. Puisque la Commission européenne, alors faut savoir que comme on a deux de QI au niveau des hommes politiques en Europe, les hommes politiques ont revoté pour Barroso, hein, qui est, et paraît-il, c'était le mieux, mais quand on voit ce qu'il est, c'est le mieux est l'ennemi du pire, c'est pas ça le truc. En tout cas, c'est un pro-OGM, et là, justement, il vient de faire voter par la Commission européenne la commercialisation et la culture d'un nouvel OGM en Europe. Alors, c'est une pomme de terre fabriquée par BASF, vous savez, ceux qui faisaient les cassettes vidéo avant, là. Et ça a aucun intérêt, si ce n'est, ça permet de rendre, si on fait du papier avec l'amidon de la pomme de terre, ça permet de rendre le papier plus brillant, le béton et les adhésifs plus résistants si on les fabrique à partir de cet OGM. Donc voilà, aujourd'hui, pour faire du papier plus brillant, on met un OGM qui a un potentiel dangereux important puisque il interfère avec certains antibiotiques. Donc là, il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré le potentiel négatif de cet OGM sur les risques médicaux et environnementaux. Hein, il y a l'Organisation mondiale de la santé, il y a l'Agence européenne de médecine qui ont alerté sur l'interférence avec un antibiotique qui s'appelle la canamycine et qui est beaucoup utilisé pour ceux qui ont certains problèmes de poumons. Donc voilà, même l'Agence européenne de sécurité des aliments qui est pro-OGM a émis un avis négatif sur cet OGM-là. Barroso est allé à l'encontre de ça. Il a dit « Ok, on va y aller ». Alors, ça ne veut pas dire que ça va être cultivé en France, en Allemagne ou en Belgique. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est les États qui vont décider de cultiver ou pas. Donc on verra ce que décidera l'État français. Voilà, il reste 3 minutes, donc on va faire un petit agenda. Moi, je vais, avant, pour lancer un peu l'émission suivante, qui va nous parler des luttes sociales et de la lutte des classes, rappeler les 2 dates de grève qui sont annoncées pour le mois de mars. Le 12 mars, il y a une grève dans l'éducation pour lutter contre la réforme, notamment du lycée. C'est une grève dans le second degré, donc plutôt au niveau lycée, contre cette réforme odieuse qui est en train d'arriver, hein, qui ça commence l'année prochaine. Et puis le 23 mars, il y a une grève interpro qui est lancée par plusieurs syndicats, la CGT, la CFDT, l'UNSA, la CNT Éduc Lyon est d'accord aussi. Le thème principal au départ c'était les retraites, et puis après ça ira sûrement plein d'autres domaines, donc c'est le 23 mars, on vous en reparlera, puis il y aura le lieu de la manif. Donc voilà, et puis tout de suite ils vont vous parler des gens qui font grève, qui résistent au capitalisme dans l'émission suivante. Sinon, mardi prochain, on sera le 9 mars, Ciné Travail est de retour. Ils seront à la médiathèque du Bachu, on sera, c'est 2 places du 11 novembre dans le 8e. Ils projettent un film qui s'appelle La chaîne du silence sur le suicide au travail. C'est un documentaire sur le suicide au travail. Donc voilà, il faut pas rater Ciné Travail, ils font quand même des choses très très bien.
Le 9 mars au Vinatier de 19h à minuit. Allez, soyons fous. Salle des organisations à proximité de la chapelle, il y a une nuit blanche de résistance. C'est pourquoi c'est en fait pour vous parler en particulier de l'unité d'hospitalisation spécialement aménagée. C'est une prison dans l'hôpital psychiatrique, donc évidemment le personnel se demande comment garantir le respect de la confidentialité, comment maintenir sa dimension d'éthique. Donc c'est une invitation à venir discuter. Puisqu'on est tous concernés, hein, c'est quoi les soins psychiatriques, comment ça doit se passer pour faire en sorte que ça soit détaché du politique et des nouvelles idées qu'on essaye de nous implanter.
Voilà, ce soir à 20h30 au cinéma Comédia, projection du film, du documentaire de Jean-Michel Carré, Le Travailleuse du sexe, organisé entre autres par Kabiria pour parler de la prostitution. Et puis samedi, si vous êtes contre l'affichage publicitaire, il y a un barbouillage. Rendez-vous 14h30 devant la médiathèque du Bachu dans le 8e. Et puis à 15h, projection débat à la Plume Noire, rue Pierre Blanc sur les pendants de la Croix-Rousse. Le documentaire c'est Bleu, Blanc, Rose, c'est Histoire et Avenir des luttes homosexuelles en France. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Rendez-vous demain pour le prochain Canu Info, 19h-20h sur le site pour réécouter le Canu Info. Tout de suite, la bande à Spartacus.
Ciao.
Il aura voyagé sa gueule de bois. Il boira comme on part à la guerre, sans être sûr qu'on en reviendra. Il retrouvera partout.